Après cette longue et belle nuit de Pâques, et nous voici maintenant, ce matin, à célébrer la lumière d'en haut, le Christ ressuscité. Il y a l'année dernière, ça dépend des années, hein, on nous montrait Marie-Madeleine avec la manifestation du ressuscité. Ici, c'est devant, cette année, le tombeau vide que l'Église nous propose de fixer notre contemplation. La résurrection commence donc par un signe ambigu, ce tombeau vide. C'est ambigu parce qu'à la fois ça témoigne de la résurrection, mais ça n'en témoigne pas d'une façon positive, c'est négatif. C'est négatif dans le sens de... ça laisse incertain. C'est le cas de Pierre et des disciples, ils sont incertains, de même les saintes femmes. Il y a le tombeau vide comme première étape de la ratification de la résurrection, prépare à la vision, à la manifestation du Christ ressuscité. Depuis d'ailleurs le commencement de l'histoire sainte, tout se fait dans une progression. Et le ressuscité lui-même, la nouvelle de sa résurrection, de ce grand mystère dont personne n'a été témoin. On a été témoin de sa mort sur la croix et ô combien. Mais ensuite, plus de témoins. Et c'est le tombeau vide qui est la première étape de cette redécouverte, de cette découverte du Christ ressuscité, monté d'entre les morts. Et cette préparation à la vision du Christ ressuscité, eh bien, il se passe la même chose dans notre vie spirituelle. On commence, on entend ce que les gens disent sur la Bible, sur Jésus, il y a des arguments, et puis il y a des coïncidences, peut-être des signes qui commencent d'une façon ambiguë toujours, par nous montrer qu'il y a un mystère au-delà de la mort. Il y a un manque qui nous habite, comme un tombeau vide, en quelque sorte. Et ce manque, eh bien, témoigne négativement de la nécessité de Dieu pour remplir notre cœur. Et ensuite seulement, lorsque petit à petit, eh bien, nous nous engageons dans la foi, alors le Christ se fait de plus en plus présent, de plus en plus visible. C'est le mouvement normal de la vie de foi. La seconde étape, donc d'abord un tombeau vide. Seconde étape, c'est la course des deux disciples. On pourrait dire que c'est la course de l'espérance. Vous voyez là, en eux, ils sont dans la tristesse, ils sont accablés au départ. Les saintes femmes arrivent, leur annoncent la nouvelle d'un tombeau vide. Alors, ça aurait été triste et ça n'aurait fait que confirmer les choses. Leur échec, l'échec du Christ, s'il avait été fermé. Mais là, il est vide. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelque chose qui met en mouvement, vous voyez. C'est pas accablant comme vision, c'est ambigu au sens strict du terme. Ça peut évoquer l'un ou l'autre aspect. Naît en eux une espérance. Elle est confuse. Elle est occulte encore. Elle est cachée. Secrète. Mais cette espérance, contre toute espérance, puisque ils sont sûrs, humainement parlant, que le Christ est mort et que désormais tout est fini pour lui et pour eux d'ailleurs, commence à naître en eux cette espérance qui, comme dit saint Paul, une espérance contre toute espérance. Et de même, pour nous-mêmes, dans ce monde, nous avons besoin souvent de cette espérance qui nous ranime, parce que on perd vite notre souffle à la course. On est un peu comme Pierre, on s'essouffle vite dans la course de la foi. Elle prend une vie entière, cette course-là, donc il faut avoir un bon souffle. Et le souffle, c'est l'Esprit Saint. Et par rapport au monde, notre espérance, on peut être accablé pour voir que Dieu n'intervient pas, qu'il ne prend pas les commandes de ce monde, qu'il ne prend pas la direction des choses, qu'il laisse le mal l'emporter a priori, mais naît en nous régulièrement à nouveau cette espérance. Vous voyez, le tombeau est vide. Il manque quelque chose dans ce monde et ce quelque chose est quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Dieu. Alors il court la course de l'espérance, donc. Il y a Jean qui court plus vite, Pierre qui arrive ensuite. Mais c'est Pierre qui entre le premier dans le tombeau. Le verbe « voir » ici, utilisé pour chacun, est différent. En grec, il y a plusieurs façons de traduire le « voir », « regarder », « contempler ». Il y a trois verbes principaux. Là, il y en a deux qui sont utilisés. Pierre, eh bien, voit selon le verbe « blepo » en grec. Et « blepo », ça veut dire « regarder les choses de l'extérieur, avec ses yeux, voir les formes, les couleurs ». « Blepo », c'est ça. Donc « blepo », c'est se tenir hors du mystère. Il reste dans l'ambiguïté, Pierre. Ah, il contemple les linges bien rangés, donc il n'y a pas eu de voleur, il n'y a pas eu de saccage, ni de sacrilège, rien de tel. Tout est bien ordonné. Et c'est un signe, évidemment, mais lui aussi, un signe ambigu. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire, cet ordre qui règne au milieu du tombeau? Il voit les choses avec les yeux de son intelligence humaine, de sa raison, et qui est incapable de pénétrer le sens des choses. Saint Jean, lui, a pris la précaution de s'arrêter devant le tombeau, de reprendre souffle, le souffle d'en haut, le souffle de l'esprit, et alors il vit et il crut. Pourquoi croit-il? Parce que le verbe voir pour lui est différent, c'est pas blepo comme pour Pierre. C'est orao, qui signifie contempler et percer l'invisible, contempler le mystère. Orao, c'est ça. Et il vit les réalités donc célestes, la réalité de la foi, et donc il croit. Quand on voit, eh bien on ratifie ce que l'on voit, et Saint Jean choisit de croire. Il y a un passage donc entre une vision ambiguë, qui est la caractéristique du tombeau vide, à une vision de foi. En conclusion, donc, il y a trois étapes. Une annonce d'un signe ambigu, le tombeau vide. Une mise en mouvement. On commence, dans notre vie spirituelle, à se dire, puisqu'il manque quelque chose dans le monde, que manque-t-il? Partons à sa recherche. Le tombeau vide, c'est ce qui manque. C'est pas ce qui nous accable, c'est pas une vision désespérée, mais ça nous indique le manque qui habite chacun d'entre nous, qui habite chaque homme. Et il faut qu'il soit rempli, ce manque. C'est le propre de l'amour humain, d'ailleurs. Il me manque, l'amour humain, l'éros, a besoin d'être complété par l'autre. Et c'est l'homme et la femme, bien sûr, cet amour-là qui les unit l'un l'autre. L'homme complète la femme et la femme complète l'homme dans une réalité, une unité complète. Donc une mise en mouvement par ce manque. Et enfin, un acte de foi. Ou alors on reste, on a encore tout le travail à faire, on reste comme Pierre, incertain. Donc c'est le travail de chaque croyant que cette étape de la résurrection nous résume. Mais le Christ est ressuscité et ceux qui savent, comme Jean, aller jusqu'au bout, eh bien font, comme Marie-Madeleine, eh bien la rencontre de ce Christ ressuscité d'une manière plus tangible. Mais à Marie-Madeleine, Jésus dit « Ne me touche pas, mais va annoncer à mes frères que je suis ressuscité. » « Ne me touche pas », c'est le passage de cet amour humain qui a besoin d'être complété. L'éros, un amour divin, celui qui vient d'en haut, qui n'est pas naturel. L'éros, c'est naturel, on est né avec. L'agapé, c'est pas naturel, c'est Dieu qui nous l'envoie. C'est celui que nous recevons au baptême, c'est la charité. Et Jésus lui dit, ben, passe de l'éros pour m'aimer à l'agapé, reçois mon agapé. Et elle s'en va toute heureuse, sans aucune frustration, sans aucun manque. Alors qu'il en soit ainsi, ayons cette joie de Pâques, cette joie de l'agapé divin.